Bienvenue au Polysécur épisode technique, je suis avec Davy.
Bonjour.
Aujourd'hui, dans cette grande vague de chaleur, nous allons aborder le volet réseau de l'info nuagique qui est malheureusement, à mon sens, un mal aimé parce que les gens ont des préconceptions, des a priori qui sont malheureusement très fausses, qui mènent à des problèmes, entre autres de sécurité, et qui mènent aussi des mauvais choix dans l'ensemble. Fait que je vais te laisser aborder avec ça, puis hors champ, on avait quand même abordé plusieurs aspects qui me semblent très intéressants.
Eh bien, je suis ravi de te retrouver, Nicolas Luc, et je te remercie de m'accueillir pour cette nouvelle séance de podcast avec nos auditeurs. Comme tu l'as dit, le programme du jour, c'est le réseau dans le cloud. Écoute, je pense que ça va être la séance la plus courte parce que le réseau dans le cloud, on s'en fout.
Alors, mais le problème, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en foutent d'ailleurs. Là, c'est pour ça qu'on en parle.
Alors, évidemment, c'est une plaisanterie et tu l'as compris. Mais c'est pour poser en fait le questionnement de l'intérêt de la notion réseau dans le cloud, surtout quand on vient, nous, de cloud privé. Je rappelle toujours une notion toute bête. Je demande, quand je fais des formations, que je fais du conseil, je pose une question fondamentale. C'est quoi un réseau? J'ai toujours 30 000 réponses du genre, c'est l'organisation des VPN avec des trucs. Je fais, oh, on se calme. C'est quoi un réseau? Quand je définis le réseau d'une entreprise, quand je définis le réseau de ma maison, en fait, je définis simplement une limite entre un dehors et un dedans. C'est ça, définir un réseau. Donc, ça veut dire qu'un réseau, la première chose, ça a vocation de définir une zone, une aire, un endroit qui m'appartient, dans lequel j'ai envie de choisir comment les informations peuvent circuler. Voilà ce que c'est. On a un challenge, parce que quand on vient d'un cloud privé, le principe, c'est d'être privé. C'est-à-dire qu'avant tout, on a des grands murs tout autour de nous. Je dis toujours, pour reprendre une analogie, que un cloud privé, c'est comme vivre dans un bunker en béton sur la plage. C'est-à-dire que par principe, pour rentrer ou sortir, il faudrait déjà avoir une porte ou dans les murs de béton. Et donc, on est déjà très protégé. Et ensuite, on va aller creuser les trous pour passer. Donc, c'est relativement, évidemment, bien sécurisé, parce que de base, c'est pas fait pour être public. Mais un cloud public, j'ai envie de dire, c'est dans le nom, c'est public. Donc, ça veut dire qu'il y a une tentation d'être très rapidement exposé au public. Et ça arrive très souvent. Donc, se posera la question de qu'est-ce qu'on fait du réseau. Alors, pourquoi je dis qu'on s'en fout le réseau quand on fait du cloud public? Parce que ça dépend, en fait, des choix techniques d'architecture de notre application. Et peut-être que comme ça, ça vous dit pas grand-chose, mais quand on fabrique une application, tout simplement, demain, vous avez une application à faire, c'est votre projet, vous avez envie, vous avez votre bout de code en Python, je dis Python parce que c'est le seul langage que je connais un peu, et vous voulez écrire votre application. Donc, la première chose en général que vos équipes vont vous dire, c'est « Ah, il me faut un serveur avec un OS pour faire tourner Python. » Sauf que dans le cloud public, il n'y a pas besoin de ça. Si j'ai une approche dite serverless, c'est-à-dire que je vais utiliser un service, par exemple, chez Amazon, c'est AWS Lambda, qui va me permettre de faire exécuter mon code sans que j'ai à gérer la moindre machine. Et qui dit que j'ai plus de machine, dit que je parle à un service. Quand on parle à un service, on parle à ce qu'on appelle une API. Une API, c'est une interface. Et le principe d'une API, c'est de protéger le dehors et le dedans et les séparer. Une API, c'est comme un mur de béton. Donc, finalement, quand je parle à un microservice d'Amazon, un serverless, et puis que ce microservice parle à un autre, on fait quoi? On ne fait que parler d'API à API. Et dans ce cas-là, il n'y a plus de notion de réseau. On ne parle pas à une IP, on ne parle pas à une machine. Et donc, quand vous parlez de microservice serverless et que vous avez une application qui est incarnée par une myriade de microservices qui se parlent comme ça, dès que vous n'avez plus la notion de machine, vous n'avez plus la notion de réseau. Vous l'avez? Vous vous connectez à la machine avec, tant mieux. Vous éteignez la machine, voilà, mais c'est dynamique, elle a changé. Le principe, c'est d'avoir l'opportunité, mais c'est pas forcément la stabilité. Si vous voulez avoir une IP statique publique, chez Amazon, ça s'appelle une Elastic IP, c'est une option. Qui est pratique, hein. Vous l'avez, vous réservez une IP, vous l'attachez à la carte réseau de la machine qui vous intéresse, et ensuite, vous pouvez parler dessus, super. Vous éteignez la machine, vous la rallumez, elle a pas changé. Vous pouvez même faire mieux. Vous pouvez détruire la machine, en recréer une autre toute neuve et remettre la même IP, si par exemple c'est par l'IP que vous rentrez dans cette machine, vous êtes identifié. L'inconvénient, c'est une petite subtilité qui est très particulière, mais qui vaut mieux ne pas rater si vous voulez pas avoir de surprise à la fin du mois. Comme je dis toujours, c'est un service qui est payant quand on l'utilise, mais qu'on l'utilise pas. C'est-à-dire que si vous prenez une IP publique Elastic IP, vous l'attachez à une machine EC2 qui est vivante, qui est active, ça fait partie du prix de la machine, il n'y a pas de surcoût. Vous éteignez la machine et le compteur commence à tomber. Et là, vous commencez à payer. Vous décrochez la carte avec l'IP dessus, vous la rattachez à rien, vous payez. Vous détachez l'IP et vous la rattachez à rien, vous payez. Et quand je dis vous payez, c'est un service qui est vraiment, vraiment pas donné. Donc faites attention à ça quand vous l'utilisez, s'il y en a vraiment. Favorisez toujours le DNS, favorisez aussi la dispersion. Donc par exemple, si demain vous me dites « Ah, je vais faire mon site web chez Amazon, mais j'attends beaucoup de visites, donc je vais avoir une dizaine de serveurs web qui incarnent mon site web », mettez-le moi derrière un ELB partout. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune légitimité. Je vois que ça te fait rire, Nicolas Loïc.
Énormément, parce que c'est des réflexions anciennes, c'est des façons... où on était contraint de vivre avec ces affaires de IP-là, puis d'avoir à y réfléchir énormément quand on est dans un univers de, justement, l'élasticité nous amène ailleurs, nous amène en dehors de ça, parce qu'un IP, ce n'est pas élastique, mais alors zéro élastique. Et toutes les mécaniques par-dessus viennent arracher l'élasticité, donc on est beaucoup mieux, le DNS entre autres, d'utiliser, de consommer les services de cette façon-là, ou même par API. Dans certains de mes clients, une des règles que j'ai émises, c'est que dans le cas d'un hub and spoke, dans un environnement le plus azure, ils ne peuvent pas se parler que par des API. Ils ne peuvent pas de contact direct. Le API et le gateway entre les deux. Donc, on ne parle même plus de zone réseau, on parle juste de zone applicative qui se parle ensemble à travers des API contrôlées. Que là, on a tout l'épisode de IAM qui était très, très là-dessus. On pourra revenir sur des éléments plus spécifiques aux API éventuellement. Mais oui, c'est la seule porte d'entrée. Il n'y a plus de IP, il n'y a plus de. On parle d'un API. Point barre.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, exactement, sur ce sujet. Hein. À partir du moment où on met une API, on met une interface entre le dehors, le dedans, qui est infranchissable. Donc, on parle plus de besoin de pénétrer dans un réseau, puisqu'en fait, on approche en bordure du cloud public. Les services ne décident plus de venir nous parler en interne, ce qui règle une grosse partie des problématiques et qui devient des problèmes de permission, ce qui peut être mal géré aussi, mais qui est déjà moins risqué qu'une IP publique ou que 50 IP publiques qui traînent. Et comme tu le dis, souvent par habitude, par réflexe, qui a du sens, hein, quand j'ai un client qui me le fait, qui me le dit, on rigole 5 minutes, je lui explique mon point de vue, et je l'amène à comprendre ce qui était une nécessité précédemment, qui ne l'est plus aujourd'hui, qui est juste un choix technique, qui peut être défendable dans certains cas d'architecture, si on souhaite vraiment avoir une machine identifiée par une IP spécifique, pourquoi pas. Mais ça veut dire qu'il va falloir faire un effort de sécurité supplémentaire sur ces machines, qui sont potentiellement plus à risque. Comme tu l'as très bien dit, ensuite on va parler du DNS. Donc ici, par exemple, c'est le service Route 53 qui nous permet de faire des résolutions DNS en privé, à l'intérieur des sous-domaines DNS. Et on a bien sûr la résolution publique. Donc à partir du moment où on a un Route 53 qui est devant nous, qui est en public, le nom de mon site, je l'enregistre dedans, je fais ce qu'on appelle une hosted zone, donc je fais un enregistrement de ce nom. Et puis après, je vais faire des alias ou des canonical names vers les destinations qui seront mon load balancer et mes machines. Ce qui fait que on pourrait voir ça comme plusieurs couches qui cachent la réalité, mais justement, c'est le cas. C'est ce qui m'intéresse. C'est que finalement, la personne qui essaie d'atteindre mon serveur web, elle ne connaît pas réellement l'identité du serveur. Et dans l'absolu, je souhaiterais qu'elle s'en fiche totalement. Parce que ça n'a pas d'importance pour nous. C'est pas ça l'utilité. L'utilité, c'est que mon nom de domaine amène à mon service, qui est mon site web, qui soit incarné par 10 machines, par 500 machines, peu importe leur configuration. Moi, je veux que ce chemin soit toujours accessible et c'est ça qui m'intéresse le plus. À l'intérieur des VPC, on a bien sûr des règles de sécurité qui sont possibles et on identifie deux éléments, trois plutôt. Le premier, je vais reprendre, on a des subnets, on a des publics, c'est veut dire qu'on peut avoir aussi des subnets privés. Donc un subnet privé, c'est un subnet dans lequel on n'aura pas de route de sortie directe. Ça n'empêche pas une ressource, une VM, une instance EC2 qui est dans un privé, de souhaiter aller voir des choses à l'extérieur. Mais elle n'a pas le droit d'y avoir accès directement, elle ne peut pas être accédée directement de l'extérieur. Si elle veut sortir, on peut faire du NAT, tout simplement, quelque chose de classique. Le principe d'un NAT, c'est de prendre une identité privée, de récupérer la requête qu'il lui envoyait pour la porter en son nom en public et ramener la réponse. Voilà. Donc, il n'y a pas d'exposition publique ici. Le NAT joue le rôle. Pendant très longtemps, des VM, Windows, Linux, avec le problème que ce soit des machines virtuelles uniques, donc des single point of failure limitées en bande passante. Il y a quelques années de ça, Amazon a rajouté la fonctionnalité de la NAT Gateway, qui est un service. Parity zone, attention, il faut en faire une parity zone, mais qui permet de reprendre le relais. C'est bénéfique, c'est intéressant, mais c'est limité en bande passante à 10 gigas. Donc, ce goulet d'étranglement peut être problématique. On pourrait ici retourner ensuite parler de sécurité par les règles de firewall qui sont possibles. Je vais rester sur ce sujet-là parce que c'est quelque chose qui arrive souvent. Et quand on réfléchit bien, on se dit, attends, je suis dans un VPC. Si j'ai bien compris, le VPC, il est chez Amazon. Quand je sors en public, souvent, c'est pour aller parler aux services d'Amazon qui sont eux-mêmes en public. Et peut-être que nos auditeurs l'ignorent, mais 90% des services d'Amazon ne sont pas S3, sur les tables DynamoDB, sur les SNS, SQS, Kinesis, tous ces services-là sont à l'extérieur du VPC. Donc, ça veut dire que, historiquement, quand on voulait accéder à des services d'Amazon, il fallait avoir une porte de sortie, sortir, taper dans le service pour rentrer. On se dit, attends, c'est en train de me dire que pour aller chercher le sel qui est dans la cuisine, alors que je suis dans le salon, je passe par la fenêtre, je sors dans la neige, je me bats avec les ours et je rentre de l'autre côté. Oui, on est d'accord que ça paraît un peu bizarre. Donc Amazon a fini par entendre raison et nous a rajouté il y a quelques années de ça, il y a près de 7 ans maintenant, ce qu'on appelle les VPC Endpoint. Les VPC Endpoint, c'est en fait une espèce de raccourci extrêmement pratique et qui est maintenant presque normalisé pour tous les clients. Le VPC Endpoint, c'est tu dis, en fait, si je suis Amazon et que tu es chez Amazon, est-ce qu'on peut pas faire un lien direct entre les deux? C'est le VPC Endpoint. Donc, c'est une porte dérobée qu'on met en deux versions. Il y a la Gateway Endpoint et l'Interface Endpoint. C'est juste, en fait, ce qui va changer entre les deux, c'est le point d'entrée. Il y en a une, c'est une gateway sur le VPC. L'autre, c'est carrément comme si le service venait poser une carte réseau chez vous, dans votre subnet, littéralement. Et vous avez une carte réseau toute seule, avec son IP, voire sa résolution DNS, qui en fait pointe vers un service et qui est capable, par l'autorisation d'Amazon, d'enjamber les limites de votre VPC. Et ça me sert à taper directement dans le service. Donc, l'Internet Gateway, là, vous pouvez l'acheter à la poubelle, j'en ai plus besoin. J'ai plus besoin de sortir en public. La NAT Gateway, pareil, vous n'en avez plus besoin. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus de problème de bande passante, on n'a plus de problème de sécurité. Et alors, mieux que ça encore, et on va rejoindre le module qu'on avait fait sur Identity Access Management, on peut rajouter des policy IAM dessus. Donc, on peut même carrément mettre en plus des policy missions de consommation des API qui sont derrière. Le VPC Endpoint, aujourd'hui, c'est vraiment un standard. J'ai quasiment pas un client qui fait une architecture digne de ce nom, il n'y a pas des VPC Endpoint. Alors, pour ceux qui n'ont pas, vous pouvez rougir et vous mettre à étudier le sujet. Je pense qu'il faut y aller maintenant. Donc, ça peut être un moyen comme ça pour nous de donner l'accès carrément en privé à un service qui ne serait pas consommable autrement. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très commun. Et on peut aller jusqu'à se l'approprier soi-même pour partager ses propres services. Imaginez que vous ayez créé une super application. Vous adorez cette appli et vous avez plein de partenaires qui l'aiment aussi. Ils sont aussi chez Amazon. Eh bien, vous pouvez faire ce qu'on appelle un private link. Donc, ça s'appelle VPC Endpoint Interface Supported by Private Link. Ouais, j'adore le nom. Donc, on l'appelle ça un private link tout court. Ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir dans un VPC votre appli. Vous allez créer ce qu'on appelle un Network Load Balancer, qui est la deuxième variation de l'ELB, Elastic Load Balancer. Et cette Network Load Balancer, devinez quoi? Eh bien, il va prendre une carte réseau et il va aller les poser dans le VPC de votre voisin. Et donc, ça va permettre à votre voisin, par cette carte réseau, de venir parler sur le nom de sur le network de balancer, excusez-moi, pour rejoindre vos machines. Et on peut rajouter aussi une policy. Et donc, imaginez, comme ça, vous pourriez tirer des cartes réseau chez plusieurs partenaires, dans des équipes avec qui vous voulez travailler, mais vous voulez pas qu'ils rentrent réellement dans votre réseau. Vous voulez juste créer ce lien entre les deux. Et l'intérêt de ça, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas de notion de VPN à monter, de routage à faire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est naturel. Amazon nous autorise par ce biais-là, finalement, à passer hors de leurs limites. J'enjambe un VPC pour rentrer dans un autre. Et c'est extrêmement pratique, y compris d'autres environnements. Et vous pourriez vous-même être client de ce genre de solution aussi. Donc, c'est une autre façon d'approcher les limites des VPC. La sécurité, elle est réglementée ensuite à l'intérieur d'Amazon. Eh bien, comme un peu partout, par des règles de firewall. Sauf qu'on n'appelle pas ça les firewalls chez Amazon, ça s'appelle des security groups et des network access lists. Les deux services ont, on va dire dans les grandes lignes, le même rôle qu'à n'importe quel firewall, c'est-à-dire éditer des règles de filtrage réseau qui permettent ensuite de se référer à ces règles qui disent « t'as le droit, t'as pas le droit ». Tel port, tel protocole, telle source, telle destination, tel comportement. Voilà, ce sont des règles de filtrage. Ces règles de filtrage, pour les security groups, elles sont posées au niveau des cartes réseau des OC2. Donc ça, c'est pratique, c'est-à-dire que ma VM qui a une carte réseau, on peut lui mettre boum directement au fait « t'as le droit de faire que c'est autre chose, niet, interdit ». Là. Et un security group par défaut ne laisse rien entrer et paradoxalement laisse tout sortir. Comment ça se fait que ça laisse tout sortir? On est dans une architecture d'abord qui laisse rien entrer par défaut, je le rappelle. Donc il faudrait déjà que j'autorise à rentrer pour pouvoir ensuite avoir une sortie. Ensuite, on est sur un service qui est stateful. Stateful, pour ceux qui connaissent pas la notion de stateful, imaginez que vous allez au restaurant, que vous faites longtemps la queue pour rentrer dans le restaurant, vous vous asseyez, vous commandez votre poutine tous les jours, et là, vous avez un coup de téléphone à prendre et vous voulez sortir. Eh bien, stateful, ça veut dire que quand vous allez sortir, la personne qui gère l'entrée du restaurant va se souvenir que vous étiez déjà dedans. Et donc, la requête, le fait d'avoir été autorisé à rentrer, va vous laisser sortir sans vous embêter et vous laissera repartir. Donc, c'est pas deux. Et que une requête qui va ressortir en réponse, elle ne serait même pas testée. C'est pour ça qu'on s'embête pas avec la règle de sortie. On dit, ben, par défaut, on laisse tout sortir. Et s'il y a besoin, ensuite, on restreindra. Donc là, à partir de là, on va donner des règles d'autorisation d'entrée. Et la règle de sortie globale, si on veut la restreindre, on l'enlève et puis on en fait une plus petite, par exemple, volontairement. Les Network Access List, eux, s'adressent au niveau des subnets. Donc, ils me permettent de cadrer ma sous-zone réseau et dire, dans ce périmètre-là, on ne regarde pas la Network Access List. Par contre, dès que tu vas franchir la limite, on va regarder la Network Access List. Et donc là, ça me permettrait de créer des règles entre sous-réseaux directement. Par exemple, entre un privé et un public, j'aurais peut-être besoin de mettre des règles spécifiques. Peut-être que j'ai un front public, l'application et ma base de données. Peut-être que le public vient de lui parler directement. C'est le rôle du Network Access List. Ces Network Access List, elles, par défaut, sont toutes ouvertes. Puis ensuite, on crée des règles de passage et on a un deny de fond. En fait, vous avez une règle qui est la dernière, qui s'appelle deny all, que vous ne pouvez pas toucher. Et on vérifie toutes les règles précédentes. Si il y en a une où on correspond, ben on nous laisse passer. Si on correspond à aucune, on est dégagé. Et le Network Access List, lui, est totalement stateless. Ça veut dire qu'il faut créer des règles explicites pour chaque sens. Il n'y a pas d'approbation implicite qui serait laissée. Network Access List Security Group, il arrive que parfois on vous les présente, on vous explique que ce soit concurrent. C'est complètement fou. Ça n'a aucun sens. Comme vous dites en anglais, le safe venturi. J'adore cette expression parce que en français, on en a une, on dit les en même temps. C'est-à-dire que les bretelles et la ceinture ont le même objectif, mais pas de la même façon. C'est-à-dire que en sécurité, moi, je dis, il n'y a jamais de redondance inutile. C'est-à-dire que ce qui paraît être redondant ne l'est pas vraiment. Même conversation, on a avec les firewall applicatifs. Je sais, par exemple, que certains fournisseurs de cloud, et là, je vais pas les mettre mal, donc je vais pas dire lesquels, même si je travaille pour certains d'entre eux, préconisent carrément d'enlever le firewall de Windows ou de Linux. Et je dis que non. Non, on le fait pas. Alors, pareil, on pourrait avoir la sensation qu'entre l'IP table et puis le security group, il y a un double effet. Alors, il y a un double effet, oui. Il y a un double emploi, oui. Mais c'est pas au même endroit. Et donc, si c'est pas au même endroit, ça veut dire que la protection va être efficace. Parfois, moi, ce que j'ai envie, c'est d'éviter que le système fabrique des trames pour rien. Donc, si je le laisse faire suite les bloquer que plus tard, je vais quand même pourrir ma machine à faire des trames pour rien, pourrir mes cartes réseau, pourrir mon réseau, créer de l'activité dans les firewalls. J'ai pas envie.
Je vais aller même plus loin que ça, parce que là, on aborde même dans les notions de zéro trust. Les machines ne devraient pas parler s'ils n'ont pas besoin de parler. Et donc, de tout verrouiller. Et c'est des mesures, ce qu'on pourrait appeler des contrôles compensatoires. C'est-à-dire que si je fais une erreur, parce qu'on est des humains, dans un de mes contrôles en amont, ben, plus on va descendre, tout à coup, il va être intercepté à chaque guérite de contrôle. Un moment donné, je vais être attrapé quelque part. Et dès ce moment-là, ça va devenir impossible de réussir à atteindre le système. Fait que si je fais une erreur de contrôle, si on parle IP public, là, on en a beaucoup parlé. Fait que c'est juste de faire une légère erreur sur un IP public, de voir que si on n'a pas de mesures compensatoires, de contrôles secondaires qui viennent justement pallier au problème, ben, on se retrouve avec encore infesté avec des gens qu'on ne veut pas chez soi.
Alors, ton problème technique, en fait, ça s'appelle un administrateur qui n'aime pas les règles. On l'a connu pendant des années. Les gens qui enlèvent les règles de firewall parce que ça les ennuie ou qui le coupent carrément en disant « Non, mais c'est inutile. » Oui, tu as raison. Mais ne mets pas de fenêtre à ta maison ni de porte et laisse tout ouvert. Tu vois, les ours adorent ça. Non, évidemment. Donc oui, effectivement, comme tu dis, il y a une double mesure de sécurité. Si un élément est défaillant, si une règle a été changée, ça arrive. Les erreurs peuvent arriver, les pannes aussi. Donc, il faut qu'on puisse contrôler. Et comme tu dis, zéro trust. Par principe, si ça n'a pas été ouvert, ça n'a pas été ouvert. Moi, j'ai des clients qui étaient fanatiques du « je dessus le lendemain ». Donc, c'est ceux qui font de l'autorisation pour faire du deny plus loin. Je fais « mais de base, tu n'as pas de droit, donc pourquoi tu m'ouvres des ports pour les refermer 3 mètres plus loin ?» Ça n'a aucun intérêt. Vous allez me dire « ouais, mais moi, j'ai des machines qui ont des comportements réseau très spécifiques, qui font plein de trucs en réseau. » Oui, bah dans ce cas-là, vous ouvrez tout. Si j'ai un routeur ou un équipement de détection de sécurité, bah son boulot, c'est de capter tout type de trafic, y compris celui qui ne le reconnaît pas. Enfin, qui est pas fait pour lui. Donc, ça veut dire qu'en fait, la couche système possédera les capacités de traiter ce réseau. Dans ce cas-là, on laisse tout rentrer dedans. C'est normal, puisque son boulot sera justement de venir à traiter et avoir ce réseau. Une fois qu'on a mis en place nos réseaux, nos liaisons, on peut faire ce qu'on appelle des VPC peering. C'est possible. Donc, imaginez que vous avez des VPC. Alors, vous allez me dire, ouais, mais le but, c'était de les isoler. Oui, qu'ils sont isolés les uns les autres. Mais dans lequel vous voudriez du VPN. Voilà. Au lieu d'avoir, imaginez, vous avez 50 VPC, vous n'allez pas monter 50 VPN, ça ferait 100 tunnels à monter, c'est une catastrophe. Donc, on va aller, par exemple, destiner un VPN, un VPC dans lequel on va monter le VPN. Et puis ensuite, on va créer des liaisons entre ce VPC qui possède la liaison VPN et puis tous les autres. Tu as parlé d'architecture hub and spoke. On parle d'architecture aussi lollipop, la sucette, parce qu'effectivement, on n'a qu'une tige et ensuite, on va très loin. Donc, ça passe par une technologie chez Amazon qui s'appelle le VPC peering, qui est une liaison explicite sans apprentissage des tables. Ça évite que si je monte du peering entre deux VPC puis un troisième, un quatrième, on ait tout un chemin qui se trace tout seul sans qu'on les contrôle. Mais qui permet comme ça que deux VPC puissent échanger. Alors, bien sûr, sous couvert que les security groups nous laissent passer, sous couvert que les network access nous laissent passer. Mais ça permet de créer des liens. Alors, le VPC peering, Amazon vous le dit moins souvent, par exemple, c'est que, en fait, il y a une limite. C'est pas plus de 10 par VPC. Parce qu'au bout d'un moment, la table de routage devient ingérable. Et elles n'ont jamais été prévues pour ça. Et vous savez que cette limite, moi, j'ai des clients qui, pendant des années, m'ont dit, je vais pas chez Amazon à cause de ça. Littéralement. Et je les comprends. Un jour, Amazon a décidé d'être intelligent. Ils nous ont sorti l'enfant divin, la Transit Gateway. Et je plaisante toujours avec mes clients en disant, ce jour-là, j'ai des clients qui ont sorti le champagne. Mais c'est vrai. Parce qu'en fait, ça a libéré des architectures. Donc, la Transit Gateway, c'est un concept assez sympathique. C'est un service qui permet de faire du hub and spoke à hauteur de 5000 VPC. Ouais. Parce que là, on commence à se dire, ah ouais, donc je pourrais avoir plein d'unités de travail qui travaillent partout ailleurs et d'avoir quelque part un endroit où je peux venir les connecter pour définir des règles de routage entre elles. Ce qui ne signifie pas que je veux que tout le monde se parle, mais ce qui signifie que je peux mettre en place des approbations entre elles. Et donc, on pourrait avoir, par exemple, plusieurs VPC qui ont besoin de parler à votre architecture on-premises par un VPN. Et c'est l'autre rôle de la Transit Gateway. C'est d'être justement la porte unique de montée de mon VPN, sur laquelle on peut agréger plusieurs liens. C'est un des seuls endroits chez Amazon où on peut faire du VPN en agrégé, puisqu'ici, on peut avoir jusqu'à 4 liens gig à hauteur de 1,25 gigaoctets par lien. Donc, on peut atteindre 5 gigas de bande passante. Et donc, ça veut dire qu'en fait, la Transit Gateway a un double rôle entre les VPC à l'intérieur et... Sans entrer trop dans le détail, parce que ce serait compliqué, sans schéma, sans explication, on va ensuite pouvoir créer ce qu'on appelle des tables de routage internes qui permettent de définir les règles des communications entre les VPC. Pour certains qui font du réseau, ça ressemble beaucoup à des organisations comme les private VLAN, avec des segmentations qui autorisent que des VPC, par exemple, puissent voir des VPC en commun, mais sans pouvoir se parler directement eux. Donc, ce qui est très intéressant, comme ça, quand on a des zones, imaginez que vous ayez une zone réseau, un VPC qui s'occupe de détecter vos intrusions. Prenons pour ce genre d'outils, où on aurait comme ça besoin d'isoler certains comportements très spécifiques, très à risque, mais à faire que tout trafic soit obligé de passer par là. Ce sera idéalement par la Transit Gateway que ça se passe. On parle de cloud, de faire des liaisons vers le cloud. Donc ça passe par soit une VPN, une Virtual Gateway, qu'on appelait avant souvent la VPN Gateway, qui est une erreur, mais ça, on comprend le concept. L'idée, c'est de monter un VPN entre chez Amazon et chez soi. Il faut savoir que quand on monte un VPN chez Amazon et chez soi, le but, hein, on est d'accord, c'est de traverser Internet avec une liaison chiffrée et sécurisée. En l'occurrence, la norme supportée ici, c'est IPsec. C'est la seule qu'Amazon supporte en direct avec son service. Ça ne signifie pas que vous n'avez pas le droit de faire VPN SSL, mais ce sera une passion personnelle. Ce sera frais entre votre VPN chez vous et une machine chez Amazon. Mais Amazon ne rentrera pas dans l'équation. Vous passerez par l'Internet Gateway, par exemple. Le VPN ici, ça veut dire que j'ai un VPN chez moi, j'ai une solution, celle que vous voulez, matériel, logiciel, une VM, un équipement physique, dans une, vous montez ça vers Amazon. Sachez que quand on fait ça chez Amazon, Amazon redonde localement, donc ça vous oblige à ouvrir deux tunnels. Par contre, vous, c'est pas une redondance, c'est deux tunnels sur le même VPN. Donc si vous voulez créer de la redondance locale, il faudra rajouter un VPN chez vous, rajouter deux tunnels de plus. Et créer évidemment des règles de routage locales, en BGP par exemple, dans le BGP, pour pouvoir faire ce routage entre les équipements. Ça marche, c'est pas mal, mais le problème c'est quoi? D'abord, 1,25 gigaoctets de bande passante par lien, sachant que là, il n'y en a qu'un seul d'actif à la fois et jamais qu'un seul lien. Et ça, c'est une limite que beaucoup de clients nous reprochent à Amazon, disant que c'est pas possible. Ensuite, ça passe par Internet. Et le problème d'Internet, c'est quoi? C'est tout sauf fiable en termes d'engagement. Alors là, je parle pas de sécurité, je parle de stabilité, de débit. Et donc, il est difficile d'envisager une vie hybride, ce qui est le cas de l'hybride, c'est-à-dire qu'ils font des allers-retours entre leur on-premises et le cloud public, sans avoir une liaison stable. On peut passer par ce qu'on appelle dans ce cas-là un direct connect. Je pense qu'il y a certains auditeurs qui connaissent déjà. Donc le direct connect, vous allez carrément monter une fibre, une liaison spécialisée, dédiée, entre vous et Amazon au travers d'un partenaire local. Alors, ils sont référencés par pays, hein, au Canada, en France, il y en a une liste précise qui sont autorisés. Vous retrouvez des gens comme Colt, comme Equinix, c'est-à-dire des grands acteurs des interconnexions mondiales qui vous fournissent donc un réseau privé dédié entre chez vous et chez Amazon. Ça veut dire qu'en fait, ils ont déjà des contrats avec Amazon, ils ont déjà des équipements d'Amazon dans des cages bien fermées. Quand je dis des cages fermées, c'est pour ceux qui font du réseau dans les data centers, vous savez de quoi je parle, c'est vraiment des cages avec des verrous, etc. Et quand on met en place le Direct Connect, il y a toute une série de partenaires, s'enregistrer auprès de chez Amazon, il y a toute une procédure, et d'ailleurs c'est assez long. C'est une procédure qui est estimée à plusieurs semaines, voire plusieurs mois, le temps de monter les fibres jusque chez vous, et qu'ensuite les autorisations soient faites. À partir de là, après, vous avez un lien privé direct entre Amazon et vous. Le bénéfice de ça, bah d'abord, c'est la stabilité, l'engagement du partenaire. On est dans du privé. L'autre bénéfice, il faut comprendre que quand vous prenez une donnée que vous l'amenez dans un cloud public chez Amazon, c'est gratuit. Comme tu l'as dit, il n'y a pas de problème, ils adorent ça. Dès que vous voulez la retirer, c'est payant. Et la facture de données sortantes du cloud, elle peut être très dure. Dans le Direct Connect, la facture de données sortantes, elle peut être divisée par 4. Donc là, ça peut être intéressant. Si on n'omet pas, honnêtement, de reconnaître qu'il y a aussi un forfait de base. Par exemple, alors je sais, mais normalement, un lien gigabit, c'est 218 dollars américains. Un lien 10 gigs, c'est 1800 dollars américains. Ça veut dire que ça fait quand même un forfait important et que si j'ai bien compté, depuis tout à l'heure, on n'en a monté qu'un seul, donc on est sur un single point of failure, donc il en faudrait plusieurs. Et là, ça commence à faire cher. La bonne nouvelle pour vous, c'est que ce Direct Connect, c'est un service souvent qu'on partage. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs comptes AWS différents sur plusieurs bâtiments, vous pouvez très bien utiliser votre backbone local pour ensuite aller vers le Direct Connect et partager cette liaison, ce qui fait que d'un seul coup, c'est beaucoup plus rentable, beaucoup plus accessible. Et là, j'ai un engagement de qualité qui m'intéresse. Il existe plein d'autres détails. Évidemment, ce sera pas le, on va pas rentrer trop dans le détail du sujet ici. Il y a des versions hébergées qui sont en dessous du gigabit. Et j'ai découvert aujourd'hui, mais pas dans tous les pays, ça dépend des partenaires. Donc là, on peut commencer à envoyer du lourd. Je vais rajouter un autre élément sur la Direct Connect qui est important. C'est que la Direct Connect, elle est connectée à une région. Sauf que souvent, quand on est dans le cloud, région égale single point of failure. Donc, on veut pouvoir aller sur une autre région. Et donc, on va utiliser ce qu'on appelle la Direct Connect Gateway, qui est une façon pour Amazon de nous dire, je vous accueille dans la région Montréal, par exemple. Mais si vous voulez bifurquer en France, eh bien, en fait, votre Direct Connect sera toujours monté à Montréal. Et de là, nous, on vous routera par nos équipements privé entre le Canada et la France directement. Et ça, c'est génial parce que ça permet de prolonger ce réseau sans rajouter de complexité pour nous. Et si demain, vous avez besoin d'aller au Japon pour quelques mois, vous pouvez le faire. Et si votre mission s'arrête pour le engagement de la lourdeur de monter ça avec des régions différentes. Donc ça, c'est quand même relativement pratique. Quand on parle en bordure ensuite, évidemment que on va arriver sur l'exposition publique. Il va me dire, ouais, mais la sécurité du cloud, c'est sympa, à l'intérieur, ça va, mais moi, je vais quand même être sur quelque chose qui est exposé en public. Je vais créer des applis mobiles, je vais créer un site web et je vais être exposé au public. Comment ça se passe quand on s'expose en public, qu'on veut partager du contenu? D'abord, on a une notion d'architecture spécifique dans les cadres des clouds publics qu'on appelle les edge locations. C'est un concept qu'on a à peu près chez tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, les régions regroupent certains data centers, mais les edge locations, c'est des data centers en plus, qui sont là pour accueillir certains comportements réseau, comme le routeur, par exemple la résolution DNS. Imaginez le nombre de requêtes DNS résolues par le DNS d'Amazon par seconde mondialement. On est proche du milliard, je crois. Donc vous imaginez que si ça allait sur quelques data centers, tout s'écroulerait en quelques secondes. Donc là, en fait, les edge locations, il y en a 300. On est un peu plus de 300 dans le monde, plus les régions qui s'occupent de ça. Donc ces data centers s'occupent de ces zones réseau. Et souvent, je prends l'image des châteaux forts. Alors bon, au Canada, vous n'en avez pas trop. Mais en France, on en a pas mal. Enfin, tous les villages en ont presque un. Donc, les châteaux forts, c'est-à-dire qu'on a une espèce de bastion très sécurisé, très renforcé. Mais autour de lui, souvent, on a des remparts. Et autour de ces remparts, on a même des tours de guet. Bah, l'edge location, c'est comme ces tours de guet qui permettent de détecter les assauts et de repousser le plus tôt possible, de sonner l'alarme et d'avoir un effort fait le plus tôt possible dans le réseau. Et donc, plus j'arrive tôt dans la sécurité, est efficace. Donc, ces edge location permettront, par exemple, de faire du cache. Avec CloudFront, le CDN, Content Delivery Network, on a donc des services qui nous permettent comme ça de dépasser les limites de notre réseau et d'aller porter des contenus en cache. Bien sûr, ce CDN a d'autres rôles. Il permettra de porter des certificats, de faire de la sécurité, de chiffrer des données à la volée. On a plein de comportements qui nous intéressent. On a l'API Gateway. On parlait de protéger notre backend pour de l'API. L'API Gateway est un service de Edge Location. Donc là, ça permet de poser ma vitrine, ma bordure directement à l'entrée et de dire, toi, tu rentres jamais dans mon réseau. Tu pars directement dessus. Et puis, on a évidemment donc les protections aux attaques DDoS. Alors, c'est un sujet complexe. Pourquoi? D'abord parce que la plupart des clients ont entendu parler d'attaques DDoS, mais très peu savent les gérer. C'est une réalité. Que quand on vous amenait le sujet, vous dites, ah oui, attaque DDoS, je connais. Ouais. Et ça veut dire quoi? DDoS, c'est pas un chanteur? Non, c'est pardon. Donc, Distributed Denial of Service, ok. Et ça fait quoi? Et pourquoi ça existe? Et comment c'est fait? Et vous apercevez que les gens savent pas, en fait, ils connaissent pas leur risque, ils connaissent pas leur menace potentielle. Ils savent juste que ça peut arriver. Et ils ont tendance à croire que le cloud va tout faire pour eux. Alors, on l'avait dit hein, dans le premier module qu'on avait fait ensemble, dans la première séance, c'est une des croyances, hein, c'est que le cloud, c'est un peu le client qui s'achète l'idée qu'il n'a plus rien à faire, mais c'est pas tout à fait vrai. Il a des choses à faire. Alors, c'est pas tout à fait faux non plus. Je vous avoue que je connais pas trop les détails pour Google. Je sais que Azure fait pas mal de choses. Amazon a le programme qu'on appelle Shield. Shield, ça veut dire si tu te fais de notre part. D'abord, si c'est une attaque DDoS de couche basse. Donc là, je fais référence au modèle OSI. Pas Ozzy Osbourne, parce que c'est pas un modèle, hein, surtout pas. Non, je mangeais pas des têtes de chauve-souris et vous droguez pas toute votre vie. Le modèle Ozzy dit qu'il y a des couches basses, il y a des couches hautes. Et donc, quand les attaques de DDoS sont faites sur les couches 3 et 4, qui sont les couches réseau, en fait, c'est comme si Amazon considérait que c'était eux qui étaient attaqués directement. Donc, ils repoussent les attaques. Et donc ça, tous les clients qui sont dans le cloud l'ont. Ils ont rien, vous n'avez rien à faire. À partir du moment où vous utilisez le cloud Amazon, vous êtes protégé de ça. Amazon s'occupe de nettoyer ses bordures, si vous préférez. Et si l'attaque ne fait pas qu'utiliser les couches 3 et 4 et continue, commence à vous attaquer sur d'autres couches comme la couche 7, Amazon vous prévient. Vous dites, attention, vous avez une attaque. Quand Amazon vous envoie une notification de sécurité, faut pas la mettre de côté. Jamais. Il faut y répondre tout de suite. Sinon, qu'est-ce qui se passe au bout de 15 minutes? Ils vous coupent l'accès. C'est pas qu'ils vous bannissent. C'est qu'ils vous protègent contre vous-même. Et ils le font pourquoi? Bah parce que s'ils le faisaient pas, on pourrait très facilement leur reprocher de laisser faire, d'engendrer des dépenses et de gagner de l'argent sur le dos des clients. Donc Amazon dit non, vous allez pas nous prendre pour des imbéciles. Donc soit vous êtes au courant et vous gérez votre attaque, vous êtes responsable et vous avez rien à nous dire, c'est votre problème. Soit visiblement vous avez pas compris et nous on va vous protéger en attendant. Et puis si on vous coupe l'accès en général, vous manifestez vite. Vous laissez pas vite, donc vous venez voir, on discute, on dit ah vous avez pas vu ça, peut-être que vous avez besoin de formation, peut-être que vous avez besoin d'aide, il y a des partenaires qui peuvent vous aider. Il existe une autre offre qu'on appelle le Shield Advance, qui est moins connu. Alors Shield Advance c'est un forfait, c'est $3,000 par mois, je vais pas vous le cacher, hein, donc c'est quand même assez important. Par contre ça veut dire que en cas d'attaque DDoS, vous avez une équipe dédiée d'Amazon entière pour votre attaque, qui surveille du bout jusqu'à la fin et qui vient même faire ce qu'on appelle une analyse post-mortem, c'est-à-dire à la fin refaire toute l'histoire avec vous, la chronologie, voir par quel vecteur on est passé, comment l'attaquant s'est adapté. Et pour l'anecdote, en décembre dernier, ils ont même rajouté une option où vous pouvez les autoriser vous-même à changer les paramètres de vos règles de sécurité. Si vous avez envie, vous pouvez leur déléguer cette tâche-là. Si vous avez envie, vous n'êtes pas obligé. Mais on peut aller jusque-là. L'autre bénéfice de ça, une attaque DDoS en général, c'est une attaque qui va faire... Alors, j'ai toujours une attaque DDoS, vous avez deux façons de la gérer. Soit vous fermez toutes les portes, vous vous calfeutrez, ce qui limite l'impact, mais ce qui fait que l'attaque a réussi, puisque vous n'avez plus de service. Soit vous la vivez, c'est-à-dire vous l'accueillez, vous ouvrez les bras grands, vous dites « je vais te résister, je vais essayer de comprendre, te contrecarrer, mais le but, c'est de ne pas arrêter mon service pour que les vrais utilisateurs puissent continuer à utiliser mon service. » Ce qui est l'enjeu et ce qui est parfois très difficile. Reconnaissons-le, c'est quand même quelque chose d'assez stressant et dur à faire. Ça veut dire que ça va engendrer une surcharge, donc une surconsommation. Et je sais pas pour vous, mais moi, généralement, quand j'ai un client qui a une attaque DDoS, il a rien fait pour la chercher. C'est pas sa faute, quoi. Il est juste la victime. Donc, c'est un peu dommage de se dire, j'essaye de faire ce que je peux, mais en plus, je me prends une surcharge de facturation. J'ai l'impression de prendre la double peine. Donc, Shield Advance propose à Amazon, aux clients d'Amazon, de revoir la facture ensemble et d'extraire de la facture, tout ce qui est qui tient compte qui fait partie de l'attaque. Ça veut dire qu'on aura aussi les services de protection qui sont défacturés. D'ailleurs, on va parler par exemple du WAF, le Web Application Firewall. Eh bien, le WAF sera en illimité. Ça ne veut pas dire qu'il est limité naturellement, mais ça veut dire que normalement, quand vous l'utilisez sans Shield Advance, vous payez tout. Et le WAF d'Amazon peut devenir cher si on se fait attaquer très longtemps et qu'il fait beaucoup de contrôle. Donc là, ça peut être très intéressant d'avoir ce contrat-là. À nous de voir. Donc dans les protections, oui, il y a un WAF. Donc qu'est-ce que c'est qu'un WAF? Pour ceux qui connaissent moins le concept, ben, un firewall, outil de filtrage des couches réseau, ben, un WAF, ça va être un outil de filtrage des couches réseau, mais aussi des couches applicatives. C'est un firewall de couchette, d'où le nom. Web Application Firewall. Donc ce WAF, le but, c'est de venir détecter soit des choses qui sont inhérentes du réseau. Ah tiens, je connais ton IP, je l'aime pas, je la bloque. C'est du pur réseau. Mais ça peut être aussi des comportements. Tiens, c'est marrant, cette IP, je la connais un petit peu. Et là, tu augmentes le nombre de requêtes que tu me fais drastiquement, j'aime pas ça. Donc ce que je vais faire, c'est pas ton IP qui m'embête, c'est le nombre de tentatives que tu fais qui m'embête. Donc on va pouvoir faire du rating, par exemple. Tiens, tu essaies de taper trop de fois par seconde. Ça veut dire que t'es pas humain, par exemple. Ça veut dire que t'es une machine. Le WAF, ça va me permettre d'aller beaucoup plus loin, de chercher, par exemple, des expressions régulières, ce qu'on appelle des regex. Nocif, bah, imaginez que vous ayez un site web dans lequel il y a des formulaires. Une attaque commune, c'est la surcharge de formulaires. C'est-à-dire qu'on va écrire volontairement dans toutes les cellules de vos formulaires jusqu'à la taille maximum possible pour vous nuire. Ça veut dire beaucoup de requêtes d'écriture. Ça veut dire faire effondrer le back-end aussi en passant. Ce qui est très sympathique, c'est très efficace pour les pirates. Hein. Ça marche très bien. Surtout quand c'est pas pris en compte, que c'est pas bien géré. Donc là aussi, ça peut se détecter quand on a des trames, des tailles de trames maximum, etc. Des attaques du type slow loris. Donc un slow loris, hein, c'est quand on fait du flooding efficace. C'est-à-dire qu'on vous envoie des trames, mais à un rythme où on attend le timeout. Voilà, on est à la limite du timeout, on n'envoie pas trop de trucs. Ce qui permet, dans l'avantage pour nous, c'est qu'un slow loris, comme beaucoup d'attaques de type flooding, est très répétitif. Donc, c'est des patterns qu'on détecte aussi assez vite. Au passage, d'ailleurs, le slow loris CloudFront lui-même le détecte déjà. Et le WAF peut aller plus loin puisqu'il peut détecter jusque aux manipulations de la base de données, ce qu'on appelle des injections SQL. Donc, des tentatives de mettre des requêtes qui iraient vers la base de données dans un bout de requête de la page qui, normalement, n'est pas fait pour ça. Si l'administration de la base de données ou du serveur qui est devant n'est pas bien faite, on ne peut nous avoir laissé cette possibilité. Et donc, il n'y a rien de pire qu'une petite requête innocente qui vous fasse un drop d'une table entière et qui vous vide tout un contenu, ce qui est possible. Donc voilà, le WAF, ça nous permet comme ça d'avoir ce contrôle sur des aspects qui sont, cette confrontation au comportement applicatif, ne sont pas dissociables d'une requête légitime. Et donc, je dis souvent à mes clients, vous savez, je vous mets au défi de faire la différence entre un gros succès et une grosse attaque. Parce que des fois, ça se ressemble beaucoup. Et donc, c'est pas du tout évident. Et il faut préparer tout ça. Donc, dans notre architecture réseau, on a besoin de ces composants en front. Et bien sûr, le summum du summum, c'est d'avoir donc Route 53 qui nous fait notre résolution, puis d'arriver sur une distribution CloudFront qui va s'occuper déjà de certains mécanismes de sécurité, avec le filtrage du WAF. Et pourquoi pas de mettre une API gateway derrière? Et là, votre architecture en back-end, elle est quasiment inattaquable. Vous avez déjà repoussé 99% des attaques à ce niveau-là. Sachez, pour ceux qui font le WAF, vous dire, ouais, mais moi, le WAF, je connais déjà. CUDA, j'aime bien les gens de Palo Alto, j'ai du F5. Eh bien, il y a des outils, il y a des règles de firewall du WAF d'Amazon qu'on peut acheter dans un marketplace où ses partenaires peuvent venir fournir leurs règles. On retrouve aussi dans le WAF d'Amazon, des règles du OWASP Top 10. Je ne sais pas si nos auditeurs sont familiers de ça, mais le OWASP Top 10, si vous ne connaissez pas, OWASP, WASP comme les abeilles, les guêpes, excusez-moi, le Top 10, c'est le classement des failles ou des menaces de Top 10, hein, des menaces des applications web auxquelles on se réfère. Et donc, ça veut dire que on a bien sûr des possibles réponses ou checks qu'on pourrait faire dans ce WAF qui va aller, comment dirais-je, que je souhaite implémenter, si possible par défaut, pour pouvoir homogénéiser tout ça. Un conseil d'architecture. Quand on regarde le WAF d'Amazon et tous les types de WAF, se pose la question de où est-ce que je le mets en place? Parce que si j'ai plein de réseaux qui s'ouvrent au public, je vais me remettre à mettre des WAF partout. Un château fort, c'est efficace parce qu'il n'y a qu'une porte d'entrée avec un pont-levis. Fabriquez des châteaux forts dans vos architectures réseau. Ça, c'est mon conseil chez tous les clients. Mettez tous vos réseaux en privé. Créez-vous un VPC, une zone réseau de sortie publique, et mettez un sacré WAF devant. Mettez tous vos réseaux de sécurité, toutes les demandes de sécurité du réseau à cet endroit-là. Ce qui fait que ça va concentrer vos efforts là-dessus. ce sera plus facile à gérer pour vous, ce sera plus facile de détecter, vous n'aurez pas 50 000 portes d'entrée. Mais je le vois très régulièrement chez des clients qui me disent « Ah ouais, faites beaucoup plus simple ». Et si certains d'entre vous s'en souviennent, on avait parlé du projet AWS Secure Environment Accelerator au Canada, qui est implémenté par Amazon et votre gouvernement, qui permet de définir une norme. Devinez quoi, dans l'architecture type qui est fournie à votre gouvernement et vos instances gouvernementales, c'est exactement l'architecture qu'on fait. Il n'y a qu'une seule porte d'entrée et de sortie. Et je peux vous assurer que les contrôles à passer, eh ben, il y en a un gros paquet. Et donc là, ça veut dire qu'on est secure. On ne prend pas de risque et on ne se focalise pas sur 50 000 portes d'entrée, ce qui là aussi nous ferait augmenter le risque qui va avec. Donc vous voyez, le réseau dans le cloud, il y en a quand même besoin. Ça peut être par l'intérieur avec les VPC si j'ai des VM. Mais même si je suis en serverless, j'ai la bordure à protéger. Et donc le réseau dans le cloud, il y en a toujours un application et les mécanismes qu'on vient de voir. J'espère que la vue aura été relativement claire pour tout le monde. Si c'est pas clair, ben vous venez nous parler, faites des commentaires, venez nous demander, et puis on pourra spécialiser d'autres sessions sur des sujets précis.
Ouais, c'est ça, on fera d'autres enregistrements. De toute façon, on commence par des sujets très vastes. C'est pas le premier sujet très vaste qu'on aborde, puis ensuite on va continuer, mais justement sur la base de des questions qu'on reçoit justement qui viennent justement diriger nos choix. Quoique nos choix, on les croit intéressants, mais des fois ils sont peut-être pas pertinents pour tout le monde. Donc justement de nous diriger vers ce genre de choses-là. Je te remercie encore une fois. C'est encore très 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 intéressant, très pertinent, justement parce que de mon expérience, beaucoup de mythes qui circulent encore au niveau du juste de démêler et de mettre les bons composants en bonne place pour les bonnes raisons. Et une porte d'entrée, même dans les réseaux privés sur site, on devrait avoir qu'une seule. Et si on en a besoin, d'avoir juste une seule endroit parce que c'est très difficile à gérer autrement. Merci.
Merci à toi.